Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B qui s'apprête à débuter. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la bibliothèque Villejean, véritable refuge pour les enfants du quartier pendant les dernières vacances. Une interview avec Keolis Rennes, on se retrousse les manches en ce moment pour faire évoluer l'offre de transport pendant l'arrêt de la ligne B. De la musique, dont une nouveauté, un reportage à la maison du jeu vidéo. Une recommandation, c'est une projection à voir samedi au 4 bis Information Jeunesse. Et puis la chronique bimensuelle de la CIMADE. Bienvenue dans l'arène. Vous le savez, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec l'info du jour, une parmi d'autres que je sélectionne pour vous. Aujourd'hui, ce sont les journalistes de Ouest France qui le racontent dans un article intitulé « La bibliothèque de Villejean, garderie malgré elle, durant les vacances » et posé sous forme de question. On y découvre dans ce papier, avec Abdella Yassine, bibliothécaire en charge de la jeunesse, eh bien, que ce lieu est un véritable refuge pour de nombreux enfants du quartier durant les dernières vacances scolaires, et c'est le cas à chaque vacances. La fréquentation, elle augmente un petit peu, parce qu'il faut expliquer que la bibliothèque, c'est la seule structure gratuite à ouvrir ses portes à ce moment de l'année. Résultat, un nombre important d'enfants viennent y passer du temps, et parmi eux, certains, je cite, très jeunes et non accompagnés, et qui restent en fratrie toute la journée. On lit dans l'article qu'ils sont appelés les séjourneurs par les bibliothécaires, un phénomène qui est confirmé par la ville de Rennes, qui existe depuis un moment. Alors certes, ça dépasse l'émission première du lieu, mais la bibliothèque tient à embrasser sa vocation d'accueil avec l'organisation d'ateliers pour les différentes tranches d'âge représentées et puis un soin apporté à la cohabitation entre les différents publics en partenariat avec des structures sociales et associatives implantées sur le quartier. Prochain temps fort, tiens, pour la bibliothèque de Villejean, ce sera vendredi 19 janvier avec la nuit de la lecture. L'association Réservoir Danse investira le lieu avec une performance dansée entre des piles de livres. Une façon de donner à voir que le goût des mots passe par la transmission. Ça se passe de 18h à 18h30 et c'est gratuit. Une performance qui sera suivie d'un atelier de 18h45 à 19h45. Là, les places, elles sont limitées. Inscription au 02 23 62 26 32. Allez, après cette info du jour, eh bien, place à l'interview du jour. Armel Guéneguès, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes directeur commercial, marketing et innovation chez Keolis Rennes, l'entreprise qui exploite le réseau Star, le service de transport de l'agglomération rennaise. Et puis, il faut préciser que c'est pour le compte de Rennes Métropole. On se retrouve évidemment aujourd'hui pour parler de la ligne B du métro à Rennes, qui est à l'arrêt depuis le 3 janvier. Je voulais le préciser aux auditeurs, Keolis, c'est le gestionnaire du réseau, donc qui n'est pas décideur politique. Votre parole, elle est donc par essence pas politique. Ça, c'est le rôle de Rennes Métropole. Aujourd'hui, on va plutôt essayer d'amener un regard technique et surtout pragmatique aux auditeurs qui sont usagers du Star. Le premier incident sur la ligne B, c'était le 18 novembre 2023, après un petit peu plus d'un an de service sur cette ligne. Là, ça avait duré un mois jusqu'au 22 décembre. Comment est-ce que Keolis Rennes s'est mis en action durant ce mois d'arrêt ?
Eh bien, dès le 18 novembre au soir, on a fait en sorte d'informer les voyageurs et puis de commencer à évaluer les dégâts de l'incendie électrique. Le lendemain, 19 novembre, c'était la mobilisation, on va dire, générale de tous les cadres pour déterminer le plan d'action, en fait, pour mettre en place un réseau de bus palliatifs. Et puis après, ben, ça a été mettre en place ce réseau, informer les voyageurs, accompagner les voyageurs tout au long de ces 5 semaines. Qui ont été longues pour tout le monde, effectivement. Et donc, je dirais en un mot, c'était mobilisation totale de toutes les équipes. principe. Ouais.
Alors, il faut le redire, il y a eu un départ d'incendie dans un local technique suite à un freinage d'urgence sur la ligne B. Il a donc fallu un petit peu plus d'un mois pour reconstruire l'architecture électrique qui alimente la ligne de métro. Ligne qui a finalement été remise en service juste avant les fêtes de fin d'année. Vous avez donc pu souffler un peu. Mais le mercredi 3 janvier, nouveau coup dur avec une fois encore un freinage d'urgence lié, ça a été expliqué durant le point presse en début de semaine, à une pièce sous l'une des rames qui est cassée. Est-ce qu'on peut expliquer d'un point de vue technique ce qu'on sait en tout cas pour le moment ?
Alors oui, tout en précisant que les expertises en fait techniques elles sont en train d'être menées et elles vont prendre un certain temps. Mais ce qui a été expliqué d'ores et déjà effectivement, c'est que il y a une pièce de ce qu'on appelle le bogie. Le bogie, c'est en fait l'essieu, en fait l'espèce de chariot qui relie la caisse du métro à la voie et qui permet de le diriger. Une des pièces de ce bogie en fait a eu une panne et s'est brisée. Une pièce qui fait partie d'un bloc mécanique et donc ça a amené en fait à ce freinage d'urgence pour mettre en sécurité en fait la rame et surtout les voyageurs à l'intérieur.
La ligne B a donc été mise à l'arrêt dans la foulée. La communication, on peut dire, de crise, elle a été menée à la fois par Keolis, Rennes Métropole et puis le constructeur Siemens lors d'un point presse qui a eu lieu en début de semaine. L'idée, on comprend que c'est d'expliquer la situation le plus en détail possible aux usagers, peut-être comme une réponse au mécontentement.
Oui, alors de toute façon, il y a une volonté de la métropole et puis de ses partenaires que nous sommes d'être transparents et pédagogiques en fait. Et puis, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une durée longue de la panne qui a été annoncée, donc il était nécessaire d'apporter des éléments d'explication pour que chacun puisse comprendre en fait ce qui aussi nécessite un tel délai.
La pièce en question là, que vous avez présentée, elle va être changée sur l'ensemble des rames. Et des rames, il y en a 25 sur cette ligne B. C'est pour ça que ça va prendre du temps, d'où une mise à l'arrêt de la ligne durant au moins un trimestre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Des analyses sont encore en cours. On se dirige. C'est ce qu'on ne sait pas encore. Est-ce que c'est un problème d'usure ? Est-ce que c'est un défaut de la pièce ? Il faut redire que c'est une technologie nouvelle qui est employée sur la ligne B. C'est peut-être un peu les aléas d'avoir des nouvelles technologies.
Oui, ce qu'a expliqué effectivement le constructeur du métro B, Siemens, c'est vrai que ce sont des. Alors, c'est un nouveau système qui a été mis en place à Rennes. En première, je dirais, et que ce sont des systèmes qui ont une durée de vie de 40 ans. Donc, effectivement, au bout d'un an, on peut encore découvrir certains phénomènes avec un kilométrage de l'ordre de 200 000 km par rame qui a été réalisé. Il peut y avoir des éléments techniques qui apparaissent qu'on ne pouvait pas voir dès le début. Donc, même si c'est très impactant pour les voyageurs et les usagers, on en est parfaitement conscient, ça reste des aléas industriels qui peuvent se produire sur ce type de système complexe. Ouais.
Le trimestre minimum qui est annoncé, c'est le temps nécessaire pour à la fois s'approvisionner sur ces petites pièces à changer, et puis qui implique un temps de démontage, de remontage et évidemment de validation par les services de l'État avant de relancer la machine. Évidemment, cette panne, elle a des conséquences importantes sur les déplacements des usagers dans Rennes Métropole. Et puis même au-delà, on lit dans certains articles de presse sur les commerces de certains quartiers de Rennes qui se sont développés en pensant l'accessibilité par le métro. L'offre de transport, elle a donc été adaptée assez rapidement avec une remise en place de l'offre de bus pendant la première panne à la fin de l'année 2023. Il y a le groupe d'opposition Révélé Rennes qui, un peu entre les lignes dans un communiqué, réclame le retour à l'offre d'avant la ligne B, tout comme le syndicat de la CGT. C'est impossible à faire ça ? C'est très compliqué
Alors... C'est effectivement, on va dire, d'une certaine manière impossible. Pourquoi ? Déjà parce que la ville a évolué. La ville et la métropole. Si je prends l'exemple de République, qui est vraiment le point névralgique du réseau et qui l'était encore plus avant la ligne B, eh bien, il y a eu des évolutions. Par exemple, je prends un exemple qui est le plus parlant, le plus concret, c'est qu'avant, on avait 600 bus, 6 à 800 même bus chaque jour qui passaient place du Champ-Jacquet, rue de l'Horloge, etc. C'est quelque chose qu'on n'envisage pas de remettre en place. Et donc, forcément, pour accueillir, remettre l'ancien réseau, on ne peut pas les faire dans les mêmes conditions. Voilà. Pour autant, effectivement, plusieurs voix se sont exprimées en ce sens et nous, c'est également quelque chose qu'on travaille, non pas un retour à l'ancien réseau, mais plutôt la remise en place de lignes qui fonctionnaient sur l'ancien réseau et qui étaient performantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Ouais.
Ce qui est déjà fonctionnel là, en ce moment, c'est donc la mise en place d'une ligne de bus dite relais métro, mais aussi des bus supplémentaires sur les lignes Chronostar aux heures de pointe, et puis la suspension partielle de quelques lignes pour concentrer les moyens humains et matériels à d'autres endroits. Ça, c'est ce qui marche déjà là au moment où on se parle.
Exactement, c'est le principe qui avait été décidé et mis en place sur la fin 2023 lors de la panne et qu'on a réactivé dès dimanche dernier. En ayant, c'est un dispositif qui avait été progressivement amélioré, hein, donc il a un fonctionnement, on va dire, optimisé, même s'il n'est pas totalement efficace, et c'est pour ça qu'on travaille sur un autre scénario.
Le cœur là, de ce plan-là, c'est donc la ligne de bus relais métro. On redit en quelques mots comment ça fonctionne ?
Eh bien, tout simplement, la ligne de bus relais métro, c'est une ligne de bus qui dessert l'ensemble des stations de métro de la ligne B, en suivant plus ou moins le tracé de la ligne, on va dire, et qui fonctionne sur la même amplitude horaire, avec une haute fréquence, hein, un bus toutes les 8 minutes. Et donc, c'est quelque part le remplacement le plus logique qu'on puisse faire dès que le métro ne fonctionne pas. Ce qui n'est pas efficace sur cette ligne, c'est son temps de parcours. Aujourd'hui, cette ligne de bus, elle met plus de 60 minutes pour aller de Saint-Jacques à Cesson, là où le métro en met 20. Et donc, finalement, le niveau de service n'est pas du tout le même. Et ce temps de parcours est entre guillemets, rédhibitoire pour rejoindre certains lieux.
D'où d'autres évolutions à venir dans les semaines qui arrivent, puisque Keolis Rennes travaille en ce moment sur l'évolution de l'offre de bus. Il y a des changements importants qui vont arriver, mais ça implique la réorganisation des plannings de nombreux agents. Ils sont 600 chez Keolis Rennes. C'est pour ça que ça va prendre un mois pour essayer peut-être de supprimer certaines stations sur cette ligne relais.
Voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de concentrer la ligne de bus relais sur les stations où elle est le plus efficace et de plutôt mettre le paquet sur les lignes Chronostar pour les autres stations où la ligne de bus relais, en son état actuel, n'est pas efficace. Donc effectivement, ça s'apparente à gérer comme si c'était une rentrée scolaire avec des modifications impactantes. En général, il nous faut 3 mois de préparation minimum pour faire les choses, on va dire, dans de bonnes conditions. Là, on réduit par plein de leviers à 5 semaines, à 1 mois pour mettre ça en place. Mais effectivement, c'est très impactant sur l'organisation du travail et les plannings de tous les agents, sur l'information des voyageurs. Il faut aller sur le terrain, modifier les arrêts en termes de signalétique, d'information, de plan. Et il faut reconcevoir les horaires de plus de 10 lignes de bus. Et donc tout ça, en fait, c'est finalement un processus quasiment industriel, hein, qu'on essaye de concentrer dans un temps record pour être le plus vite présent auprès des usagers avec cette nouvelle offre.
Il est aussi question d'améliorer les correspondances et puis l'accès au centre-ville pour les communes de Rennes Métropole qui justement, dont des bus amènent ces communes vers les terminus de la ligne B de métro. Il y a des communes vraiment plus touchées que les autres et pour qui il faut aller vite.
Oui, alors sans forcément toutes les citer, mais je peux prendre l'exemple du nord-est de la métropole avec Torigné-Fouillard et Assigné. Ce sont des lignes qui sont rabattues sur Cesson-Via Silva. Et justement, le temps de parcours entre Cesson-Via Silva et le centre-ville via le bus relais, eh ben, il est très long, hein, on dépasse la demi-heure. Donc effectivement, ce n'est pas une offre de mobilité compétitive. Donc il faut qu'on arrive à proposer à ces communes-là quelque chose qui soit plus rapide pour justement améliorer leur déplacement quotidien.
Et peut-être éviter de se reporter sur la voiture, mais ce qui arrive forcément là en ce moment, vous l'avez déjà cité, le plus gros défi là, c'est d'informer les voyageurs sur une offre, on le comprend, qui est très mouvante, qui est encore amenée à bouger dans les semaines à venir. Il y a l'application du Star, tout le monde n'a pas forcément le réflexe, tout le monde n'est pas connecté. Vous déployez donc encore plus d'équipes que d'habitude sur le terrain ?
Oui, alors vous faites bien de le rappeler, le réflexe à avoir c'est Star l'appli et star.fr. Tout le monde n'est pas digital comme vous le dites, pour autant il y a quand même 150 000 personnes qui utilisent cette appli et c'est vraiment le réflexe pour avoir l'info la plus fraîche, la plus actualisée en temps réel et puis on pousse des notifications au travers de l'appli, etc. Donc c'est le premier réflexe à avoir. Après effectivement nous on est sur le terrain hein, pour aller directement au contact des voyageurs sur les grands pôle transport, République, gare, les stations de la ligne B, les Gailleuls, etc. etc. pour directement faire de la communication sur le terrain. Puis après, on a encore notre centre d'appel hein, qui est disponible, Infostar, nos agences commerciales, les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, on essaie de se mettre à disposition de tout le monde pour donner les meilleures solutions.
Et ça marche, l'information voyageur, ou la colère, elle est inévitable chez les usagers que vous rencontrez ?
Écoutez, le transport et la mobilité, ça impacte tout de suite la vie quotidienne. Donc on comprend en fait que les gens sont touchés, certains sont fatigués parce qu'ils se lèvent plus tôt, etc. Et nous, on le comprend parfaitement. Après, sur le terrain, on voit quand même de la compréhension de la part des clients, même si c'est pas du tout simple pour eux, quand on leur apporte des explications. En fait, ils voient qu'on fait notre maximum et qu'on est en mouvement pour essayer d'améliorer.
Et dernière question, on se rappelle que fin 2023, il y avait une partie des agents du service de transport qui s'étaient mis en grève, je crois, soutenus par deux syndicats différents. Donc c'était lors de la première panne entre fin novembre et fin décembre. Ils dénonçaient des conditions de travail rendues difficiles là, par cette panne sur la ligne B. Ils avaient finalement obtenu une prime exceptionnelle. Est-ce que là, sur ce second épisode qui s'annonce plus long, l'ambiance est plus apaisée
Alors écoutez, en tout cas, nous, on met tout en œuvre pour améliorer le dispositif pour les usagers et donc pour nos collègues conducteurs également. C'est bien pour ça qu'on cherche à mettre en place et qu'on va mettre en place une offre qui sera plus efficace dans un délai, j'ai envie de dire record. C'est pour que ce soit que les bus soient moins chargés, plus efficaces et que les conditions de travail soient meilleures. On a associé les organisations syndicales à cette réflexion depuis le 5 janvier. La panne a eu lieu le 3. On est encore en discussion avec eux depuis et on poursuit. Donc on essaie aussi de construire entre professionnels finalement du réseau Star la meilleure solution pour tout le monde, à la fois les collaborateurs de Keolis Rennes et les voyageurs.
Armel Guéneguès, je vous représente. Vous êtes directeur commercial, marketing et innovation chez Keolis Rennes, donc l'entreprise qui exploite le réseau Star, service de transport de l'agglomération rennaise pour le compte de Rennes Métropole. On vous retrouve en ligne sur le site star.fr et puis sur une application dédiée. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que lors du premier épisode, la moitié du prix des abonnements mensuels a été remboursée auprès des usagers. Toutefois, pour l'incident en cours, pour le moment, l'idée d'un geste commercial de la part de Rennes Métropole est encore à l'étude et rien n'a été confirmé. À suivre donc, et on a envie de vous souhaiter bon courage. Merci beaucoup.
Merci et bon courage à tous les voyageurs aussi.
Give up. Oh, des sécures partout. Oh, des zones à zéro, à zéro. Oh, qui les a moqués,
les a moqués.
On vit sans tout. Pas comme un pagué, m'a changé de l'eau, pas comme un passé.
Give up.
Oui, la nouveauté, pas comme un pagué, m'a changé de l'eau, pas comme un passé.
Keba, Nabutu, Méfie-toi par Tonnerre et Bikaï. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin. C'est notre programmateur musical depuis fort longtemps ici à Canal B. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur un album It's a Bomb. C'est sorti le 10 novembre sur le label Born Bad Records. La réunion sur un CD du musicien congolais Bonnie Bikaï et du trio français Tonnerre, que vous venez d'entendre dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes peut-être branché sur le 94.0 ou bien connecté en ligne sur notre site canalb.fr où vous pouvez d'ailleurs retrouver à tout moment les podcasts des différentes émissions, et elles sont nombreuses, réalisées par des salariés mais aussi par beaucoup de bénévoles. Allez, on continue cette émission avec un reportage. Et direction la rue du sous-lieutenant Yves Berger à Rennes, près du métro Henri Fréville, pour découvrir la maison du jeu vidéo, un lieu inauguré en décembre par l'association du même nom, grâce au budget participatif de la ville de Rennes, 3e édition. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un espace modulable qui permet d'accueillir des événements et puis des associations, et à l'étage, des bureaux pour cette fois accueillir des résidents plutôt professionnels. Aperçu du projet avec Basile Richer.
Est-ce que ça te va si on fait le tour du jardin? Ouais. Déjà.
De nuit,
ouais.
Basile Richer, co-créateur du projet La Maison du Vidéo, fondateur du Pixel Club, et là aujourd'hui je suis trésorier de La Maison du Vidéo.
Bah, en arrivant, t'as eu la réflexion de dire que c'était une maison qui ressemblait à une maison d'habitation, et c'est le cas, c'est une petite maison castor comme on a l'habitude de voir beaucoup au sud de Rennes. Donc elle est devant nous, il y a un rez-de-chaussée, un étage, et un beau jardin là, ici avec deux grands chênes. Et un espace qui entoure toute la maison. On cultive beaucoup ce côté maison parce que, en fait, il y a le côté chaleureux qu'on a envie de cultiver autour du jeu vidéo. Donc c'est la maison du vidéo. Ici prennent place toutes les activités et initiatives rennaises qui souhaitent venir et qui font des activités autour du jeu vidéo. C'est coordonné et orchestré par une association qui s'appelle la Maison du Vidéo. C'est un projet qui a plus de 7 ans. On a les clés depuis le printemps 2023, donc cette année. Et en fait, on avait juste la volonté de créer un lieu d'accueil justement pour les gens qui font des choses autour du jeu vidéo, un peu à l'instar du jardin moderne avec les musiques actuelles par exemple, un lieu de création et de diffusion, voilà. Donc là, on est sur le début de ce projet qui a pris place à Rennes.
Au numéro 2 ?
2, ouais, de la rue du sous-lieutenant Yves Berger.
Bon bah rentrons parce
ouais,
que...
Ouais, ça marche.
Ça pèle. Là, on est dans le salon.
Voilà, c'est ça. Alors ici, en fait, avant, c'était, ça a toujours été un local associatif, mais c'était plus des bureaux. Enfin, ça avait une activité de médiation pour la ville de Rennes il y a quelques années encore. Et donc là, le bâtiment nous a été confié. On a fait quelques travaux d'aménagement avec l'aide de l'enveloppe du budget participatif de la ville de Rennes. C'est une initiative qui nous a permis d'avoir quelques fonds justement pour s'installer et prendre place ici dans cette maison. Et donc on a fait des travaux pour créer cet espace ici d'accueil au public, et donc qui est assez grand, qui nous permet d'accueillir 15-20 personnes assez facilement. Et on a fait en sorte que ça reste quand même assez modulable. Là, à ce moment, il y a un membre des rankings rennais qui est en train d'aménager la salle justement, parce que d'ici quelques minutes, ils vont prendre place pour faire une session de jeu tout simplement. Et donc voilà, il y a cette petite cuisine là d'où je vous parle, qui est ouverte justement sur ce grand espace. Et bah, ça permet de faire une petite buvette éventuellement pour les associations qui prennent place ici. Donc l'histoire de ce projet a commencé avec le Pixel Club il y a 7 ans justement, où en fait à l'époque on était parti du principe qu'on avait besoin d'une structure comme celle-ci à Rennes. Et on a écrit dans les statuts que l'objectif de l'association le Pixel Club c'était de faire ouvrir justement la maison du jeu vidéo. Mais on s'était dit à l'époque qu'il serait nécessaire de créer une deuxième association pour prendre la suite, parce que la mission est complètement différente. Donc c'est écrit dans les statuts du Pixel Club que le jour où la maison du vidéo est inaugurée, le Pixel Club disparaît. C'est ce qui s'est passé récemment. Voilà. Et donc ça permettait aussi, dès le début du projet, de faire un renouvellement des personnes qui s'occupent du projet pour que ce soit plus sain et de permettre de remettre les cartes sur table et puis choisir les bonnes personnes pour ça.
C'était quoi les besoins principaux identifiés pour lancer une maison du jeu vidéo, des associations qui étaient un peu en difficulté pour trouver des lieux où se réunir, des professionnels aussi?
Alors tout à fait. En fait, nous, l'association le Pixel Club, c'était le meilleur exemple de ce besoin à Rennes, parce qu'en fait, nous-mêmes, pour pouvoir faire des réunions ou se réunir, ou voilà, on était obligés d'aller soit dans des appartements, et parfois c'était pas du tout adapté, soit dans des cafés, et il suffisait que la musique soit trop forte ou des choses comme ça pour qu'on fasse mal les choses. Et là, du coup, des associations qui ont besoin d'un espace pour faire une réunion associative ou qui ont envie de monter une rencontre, ils peuvent le faire aujourd'hui facilement, parce que c'est notre mission, justement, c'est d'accueillir toutes les initiatives dans ce cadre.
Ensuite, il faut passer à l'étage.
On va à l'étage, ouais. Donc on a un étage qui est dédié à l'accueil de résidents et résidentes. Donc ce sont des bureaux individuels ou pas, il y a quelques bureaux collectifs. Et donc on a accueilli actuellement déjà une dizaine de résidents qui ont des activités diverses. Donc il y a des développeurs, il y a un streamer qui fait du contenu autour de jeux vidéo là, qui est en train de tourner dans le bureau qu'on voit ici à gauche.
Zulfarak, mais on va pas à Zulfarak direct, on va aux Interlandes d'abord pour faire une quête et après, on va chercher le marteau de Ginta alors pour pouvoir le ramener à Zulfarak, et après à Zulfarak, ça va débloquer un boss caché, enfin qui est plus un boss caché, hein, tout le monde le connaît, mais et on va pouvoir obtenir des loots supplémentaires. Vas-y, on va le faire. J'ai peur de mourir dessus.
Son nom c'est
Astral Azur.
Il y a des modélistes 3D, 2D, dessinateurs, illustrateurs. On a plusieurs activités, des sound designers aussi, pas mal de musique. Donc ils prennent place et puis ils viennent en fonction de leur rythme, un jour ou deux, ou tout, constamment. Voilà, on a Nagi qui est là.
Bonjour. Et tous les bureaux sont occupés ou
Oui, voilà, tous les bureaux sont occupés. Alors on a une place d'un résident permanent qui est à pourvoir, et on a aussi deux places qui volontairement sont... On appelle ça du flex office, mais c'est en gros des bureaux tournants, c'est-à-dire si les gens ont besoin de bureaux très temporairement, salut Sylvain, des bureaux par exemple 2 heures par semaine, c'est un bureau où ils peuvent s'installer et puis ils reviennent un mois plus tard ou une semaine après pour des temps aussi courts, quoi. Et donc il y a du monde tous les jours, c'est en continu, parfois certains restent toute la nuit, des fois d'autres c'est le jour, enfin il y a une activité quasi constante.
Ah oui, donc c'est ouvert tout le temps.
Oui, ouais, c'est ça, c'est un local associatif, on est autonome, on a les clés.
Dire que Rennes est un territoire particulier sur les cultures vidéoludiques, les jeux vidéo, que ce soit en termes d'association ou de création.
Alors à Rennes, il y a évidemment le Stunfest qui distingue vraiment le territoire par rapport au reste de la France. Le Stunfest est le festival qui va chercher un petit peu les cultures émergentes autour du jeu vidéo, les cultures alternatives. Donc voilà, effectivement, il y a une touche particulière à la rennaise, mais qui n'est pas très loin de l'esprit des transmusicales ou des choses qu'on a l'habitude de voir, ce côté un peu curieux qu'a la ville de Rennes. On va le retrouver ici grâce au Stunfest et puis on l'espère grâce à la maison du vidéo dans le futur.
Pour le moment, il y a combien d'associations qui sont donc en convention avec la maison du jeu vidéo ?
Alors, on a 6 associations. Certaines viennent toutes les semaines, d'autres non, plus temporairement. Il y a tout le système, l'écosystème rennais qui gravite autour de la jeu vidéo, qui a des besoins très temporaires, d'autres plus fréquents. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de structures qui ont au moins un pied dans la maison du jeu vidéo, qui viennent soit pour participer, soit pour se renseigner, se faire des rencontres, voilà.
On peut citer des noms et puis leurs particularités.
Alors, il y a évidemment le Stunfest. On espère qu'ils s'impliqueront de plus en plus dans la maison du jeu vidéo, parce que parce que ils sont légitimes pour ça. Enfin, le Stunfest avec l'association Troy Combo. Je pense aussi à Indie Collective, qui est une association qui organise, qui fait la promotion du jeu indépendant. Et ils organisent des game jams notamment. Donc ça, c'est des événements qui durent le temps d'un week-end et les gens créent un jeu vidéo en 48 heures avec un thème qui est révélé au début du week-end. Et les jeux sont terminés à la fin du week-end. Donc c'est très très chouette. Ils font beaucoup d'événements comme ça dans l'année, dont un ici au mois de juillet. Ça s'appelle la Barbecue Jam. Donc on fait barbecue et on crée des jeux vidéo en même temps. Donc il y a les Ranking Rennais qui sont en train de s'installer, qui font des jeux d'animation de jeux de combat. Il y a Smash Braze qui joue tous les dimanches ici. Donc c'est eux, ils font des sessions de jeux sur un seul et unique jeu. Il y a Jester Sprite, c'est une chorale qui chante des musiques de jeux vidéo. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et on est super content parce que c'est à l'image du projet tel qu'on l'avait imaginé, c'est-à-dire une variété, enfin une diversité autour du jeu vidéo. Et surtout des rencontres et de l'humain derrière ça.
Là. Ah, c'est moi, bon. Ça déco. Okay. C'est bon. Ouais, c'est beau pronostic.
Alors moi je suis Thomas Crespin, je suis vice-président de l'asso.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle, alors pour l'instant les Ranking Rennais, c'est un nom plus ou moins temporaire. Là on en a un qui n'a pas été encore annoncé, en gros, enfin présenté vraiment. C'était un peu pour qu'on se lance. En fait on a une nouvelle asso qui s'est en fait séparée de Troyes de Combo, comme on vous en parlait tout à l'heure. En plus, le fait de se reconcentrer un peu sur en gros le jeu de combat précisément, de faire des trucs un peu à portée locale, ou du moins sur Rennes, quoi, sur d'autres jeux de combat, du coup, voilà.
Vous êtes combien dans l'association ?
En termes d'adhérents, je dirais qu'il y a 30, 40, 50, tout là.
Quelques dizaines.
En tout cas, quand on fait notre rendez-vous un peu mensuel dans une maison de quartier, alors pas ici du coup. On va traîner autour entre 30 et 50 personnes en gros qui vont venir, quoi, et l'équipe vraiment associative va être autour d'une quinzaine, quoi, 10, 15.
Vos temps forts, c'est tous les mercredis ici ?
Donc, en gros, ouais, ici, tous les mercredis, on organise du coup une session, ça s'appelle Free Play. En gros, c'est voilà, les gens ils viennent, ils payent une petite participation pour que nous d'ailleurs on puisse payer des frais de la maison, etc. Mais sinon, voilà, ils viennent et ils jouent à ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, sans pression, sans vraiment de compétition ni rien. C'est vraiment histoire de s'amuser, de s'améliorer, puis voilà, quoi, de passer un moment avec des gens.
Sur des jeux de combat, c'est ça ?
Ah, voilà, sur des jeux de combat. C'est ça qui est un peu particulier avec cette culture spécifique, cette niche dans le jeu vidéo, c'est qu'en gros c'est une pratique qui a plus de un peu de bouteilles dans le jeu vidéo. C'est assez vieux, hein, c'est un des premiers jeux compétitifs en opposition en fait du jeu vidéo, peut-être avec Street Fighter 2, ça parlera à des gens, voilà. Et en gros c'est à dire que du coup ça remonte, et du coup il y a une certaine culture qui existe depuis un petit moment. Il y a toujours un peu cet esprit, cette culture, voilà, de se rassembler en fait, de venir du coup, vu que c'est des jeux en opposition. Toujours quelqu'un,
c'est
un contre un, c'est un adversaire, et du coup souvent c'est toujours très sympathique d'être là avec côte à côte avec son adversaire, pouvoir discuter, dire un tiens t'as fait ça, moi j'ai fait ça.
On peut citer d'autres jeux que
oui, bien
Street
sûr.
Fighter.
Alors, nous du coup maintenant en ce moment, mais du coup maintenant là nous on propose du coup en gros alors du coup Street Fighter le dernier, donc le 6, mais aussi le 3, donc Street Fighter 3.3, c'est une version qui est beaucoup prisée sur Rennes en particulier. Et après du coup on a aussi Guilty Gear Strive, King of Fighter 15. Tekken 7, bientôt le 8 qui va sortir bientôt. Alors après en fait on laisse aussi les gens l'opportunité en fait de un peu voilà de venir en fait, avec un jeu qui leur plaise à eux, que nous on propose forcément directement, pour qu'ils le présentent, pour qu'ils jouent avec des gens qui ont aussi envie d'y jouer, etc. Voilà.
Et avant d'être à la maison du jeu vidéo, c'était justement difficile d'avoir un lieu fixe peut-être ?
Mais un peu, c'est-à-dire qu'en fait, pour les gens un peu free-play comme ça toutes les semaines, avant on faisait ça du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué, on faisait ça en gros dans un bar gaming, le Warzone, c'était pas idéal, c'était pas non plus une catastrophe, hein. Ça restait quand même un peu un lieu autour du jeu vidéo, mais c'est vrai que c'était pas non plus idéal. Là on est quand même bien content d'être là maintenant, c'est un grand cadeau que vous nous avez fait.
Et j'ai peut-être une dernière question. Ouais. De savoir, vous, depuis quand est-ce que le jeu vidéo est dans votre vie et ce qu'il vous apporte ?
Oula, alors moi, personnellement, le jeu vidéo, ça fait un moment qu'il est dans ma vie. J'ai commencé, en gros, c'est un peu mon frère. Hein, souvent, c'est le grand frère qui fait découvrir. Puis après, j'ai continué à y jouer beaucoup, beaucoup trop. Mes parents, notamment, diront. Un peu tout le long de mon enfance, adolescence, sexualité. Et ce que ça m'a apporté, après, je dirais vraiment que c'était une fois arrivé du coup sur Rennes. à travers, en fait, j'ai un ami que j'avais découvert, rencontré justement d'ailleurs par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux jeux de combat précisément, que j'ai rencontré comme ça, que je suis devenu très ami avec lui, qui du coup, je suis arrivé en colloque du coup, sur Rennes, du coup, un peu avec lui, du coup, voilà. Et c'est aussi un peu lui qui m'a fait découvrir un peu, du coup, ce monde-là, de cette association. C'est vrai que c'est qui existe encore, mais voilà, que maintenant on s'est séparés. Et du coup, ce que ça m'a apporté le plus, c'est vraiment ce côté très social. C'est vrai, ça m'a vraiment fait sortir un peu de ma bulle, quoi. Ça m'a fait rencontrer des gens qui sont maintenant mes amis, compagnie. Voilà.
Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses?
Bah, je dirais peut-être une touche sur le jeu de combat en lui-même. C'est vrai que ça fait un peu peur, ça fait toujours un peu, voilà, c'est violent, ça reste des jeux vidéo. C'est une pratique quand même qui faut un peu se détacher, voilà, de l'aspect du forme et plus ce qui est très intense, c'est quand même le fond. C'est une analogie qui est souvent faite, qui est un peu facile, peut-être qu'un peu désuète, c'est quand même un peu du jeu d'échecs en temps réel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux sur l'esprit, sur les... Du coup, forcément, vu que c'est en temps réel, il y a aussi avoir du coup de la dextérité et de la réaction.
Donc mental et rapidité.
Voilà, quoi. C'est ça.
Est-ce qu'il y a des clichés qui vous énervent sur le monde des jeux vidéo et que vous avez à cœur de, je sais pas, démonter avec un projet associatif comme celui-ci?
Eh bien, alors oui, forcément, en fait, il y a des discours assez faciles, les clichés, hein, et puis tout le monde en a conscience sur l'impact des jeux vidéo sur la société. Souvent, c'est la cible facile, en fait, pour détourner l'attention. Via la maison du jeu vidéo, je pense qu'on va plutôt pas essayer de faire de médiation autour de ça, mais plutôt montrer les bienfaits des jeux vidéo, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est capable de se réunir autour du jeu vidéo, c'est pas forcément quelque chose qui va nous isoler, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui peut ouvrir et créer des rencontres, et voilà. Donc on va essayer de faire on va faire en sorte de faire des belles choses pour que le jeu vidéo soit désacralisé et devienne un champ d'expression et un outil de lien communautaire.
Même si l'ouverture est assez récente, vous avez peut-être du coup un regard sur les publics qui viennent fréquenter cette maison du jeu vidéo. On sait que c'est encore difficile d'attirer un public féminin pour plusieurs raisons un peu presque sociologiques, notamment le fait de ne pas toujours se sentir en sécurité en ligne pour les joueuses. Il ressemble à quoi le public qui vient à la maison du jeu vidéo? Est-ce que c'est un de vos défis peut-être d'essayer de l'élargir?
Oui, tout à fait. Bonsoir. En fait, effectivement, enfin, là, aujourd'hui, on va pas se mentir, les gens qui viennent à la maison du vidéo sont majoritairement des hommes. Maintenant, la porte est ouverte à tout le monde. Il y a des associations qui existent comme Women in Games, etc. Pour l'instant, on n'a pas de pont avec ces organisations, mais ce serait avec plaisir. Enfin, en tout cas, la porte est grande ouverte et on se battra pour que ce soit un endroit en mesure d'accueillir dignement tout le monde, enfin, avec respect et voilà. On a un site internet c'est lamaisondujeuxvideo.com, donc c'est facile à retenir. Dessus, vous serez vite orienté soit vers un formulaire par mail ou un serveur Discord. C'est un logiciel de communication très répandu dans le jeu vidéo, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre dessus. Et éventuellement, exprimer des besoins si vous en avez. Si y a une initiative qui souhaite bénéficier de locaux faciles d'accès pour un besoin quelconque, on étudie toutes les demandes et on fait le maximum pour accueillir tout le monde. Donc, puisqu'on donne la possibilité, je serais ravi qu'on puisse écouter sur Canal B le morceau Mercredi matin d'Alexis Lumière, qui est rennais. Il a été membre du groupe La Femme. Et donc là, il a sorti ce projet solo avec une âme jeu vidéo à l'ancienne, comme j'aime beaucoup. Et il est par ailleurs en concert au café Tête de Chou ce vendredi. Donc voilà, moi j'y serai pour aller écouter ça.
Lumière et son morceau Mercredi Matin sur Canal B. C'était le choix musical de l'invité qu'on vient de quitter, Basile Richer. Un titre à retrouver sur un album, Greenie 90, sorti en 2023 par cet artiste rennais. Vous êtes en train d'écouter La Reine sur Canal B, une émission qui se poursuit avec la fameuse recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils de choses à se mettre dans les oreilles, à aller voir, à aller lire, souvent à vivre près de chez soi. Aujourd'hui, on annonce une projection. Ça se passe samedi 13 janvier à 14h30 au 4 bis Information Jeunesse, tout près du métro Charles de Gaulle et de Canal B donc. Et le film projeté, c'est un documentaire, un textile éthique, réalisé par Laureline Foinel et Victoria Cerqueira. Elles sont de la région rennaise, si je dis pas de bêtises. Elles sont donc parties en Asie réaliser ce film. Objectif, mettre en lumière des entreprises textiles éthiques. Un documentaire qui passe donc par des usines de production, mais aussi par des ONG, pour tenter d'éclairer le consommateur sur les réalités de cette filière, et puis aussi évoquer la place de la femme sur ce continent, l'Asie. Après la diffusion du documentaire qui dure 1h30, un temps d'échange est prévu avec le public, une projection qui est organisée à prix libre, et les recettes seront reversées à l'association népalaise Local Women's Handicrafts pour distribuer des kits menstruels dans les écoles et ainsi lutter contre le tabou autour des règles. Plus d'infos sur cette projection sur le site le4bis-ij.com. Avant de se quitter, je vous laisse avec la chronique bimensuelle de la CIMADE, car toutes les deux semaines, les intervenants juridiques de cette association de soutien aux personnes exilées nous donnent à voir ce qui se passe entre les murs du CRA de Rennes. Trois lettres pour centre de rétention administrative. Aujourd'hui, témoignage.
Amir est arrivé au CRA de Rennes en janvier 2023 et a été libéré plus d'un mois après. Il avait déjà été enfermé à plusieurs reprises au sein de ce même centre depuis son arrivée en France en 2017, victime de l'acharnement des autorités françaises qui s'obstinent à vouloir l'expulser. Amir nous raconte une nuit au CRA de Rennes lors de son enfermement en début d'année, témoignage qui fait écho à une tentative d'expulsion forcée, une pratique malheureusement courante en centre de rétention administrative. Les personnes sont réveillées en pleine nuit, de manière brutale, par les agents de la police aux frontières, sans comprendre ce qu'il se passe, ni où elles sont emmenées. Un événement traumatisant, comme nous le raconte Amir. Les policiers sont arrivés à 5. 3 étaient devant la porte. Ils étaient 10 au total. Il était 4h01 du matin. Un policier m'a réveillée. Il a direct pris mes mains et m'a sauté sur le dos pour me menotter. J'étais dans mon lit encore, j'ai rien capté. Je l'ai insulté, il m'a répondu « chut ». Le chef est entré dans la cellule. Il a dit à ses collègues que ce n'était pas moi qu'il devait prendre cette nuit. Ils m'ont donc enlevé les menottes, ne se sont pas excusés et sont entrés dans les autres chambres pour chercher la personne qui allait être expulsée aujourd'hui. C'était très violent. J'ai une opération à faire à l'épaule. Le policier de 100 kilos sur mon dos m'a cassé encore plus mon épaule. Je suis cassée et traumatisée.
Terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.